Cabiro. Chers auditeurs de Mikabiro Magazine, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous allez suivre la deuxième partie de Mikabiro Radio consacrée au délitement de l'État burundais depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Mushingana Ezelo Nichayenzi poursuit son cours magistral d'une histoire du Burundi palpitante et tragique depuis l'assassinat de Hugues Agasole. Une course contre la montre entre deux projets républicains concurrents était engagée en octobre 1965 entre des acteurs politiques et militaires, Hutu et Tutsi. La fuite du roi Mwambutsa vers l'Europe en novembre 1965, d'où il ne reviendra plus. Sa destitution par son fils, Charles Ndizeye, intronisé Nade V le 1er septembre 1966. La proclamation de la République par Emmerichel Mijombelo, pris de panique, il s'en est pris trois fois avant de pouvoir enregistrer allocution qui abolissait une monarchie de plusieurs siècles. Suivez cet entretien que Mushingana Ezelo Nichayenzi a accordé à Tanas Karayenga pour Bigabiro Magazine.
Avant d'accéder à d'exposer cette solution, est-ce qu'on peut dire que le coup d'État, parce que c'était un coup d'État, même s'il n'a pas réussi, contre le roi Mwambutsa, la nuit du 18 au 19 octobre 1965, dirigé par Gervais Nyangoma et ses troupes, est-ce qu'on peut affirmer qu'à partir de cette date-là, s'est mis en route une course contre la montre engagée entre des républicains Hutus, donc représentés par Gervais Nyangoma, et des républicains Tutsis qui ont peut-être contribué à la destitution de Charles Ndizeye?
Eh bien, je pense que vous l'indiquez fort bien dans votre question. C'est exactement, à mon avis, cela qui s'est passé. Il y a une compétition pour dire, est-ce que si l'autre prend le pouvoir, je risque de disparaître. Il y a une course qui s'engage entre les deux parties, une véritable course. Mais la partie, disons, Casablanca, a une sorte d'avantage, c'est que l'autre partie, Monrovia, a été considérablement affaiblie par la disparition des membres de dirigeants, notamment du bureau de l'Assemblée et du Sénat. Les trois dirigeants du bureau de l'Assemblée, les trois dirigeants du bureau du Sénat ont disparu dans la tourmente.
C'est quoi disparu? Ça veut dire quoi?
Ils ont été arrêtés comme principaux responsables des événements qui se sont passés dans la nuit du 18 au 19 octobre 1965, d'abord contre le Mwami, ensuite dans les graves incidents qui ont eu lieu dans la région de Bukeye, Muramvya, Bugarama et Teza. Ils ont été accusés notamment d'être les principaux responsables et ils ont été exécutés. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat sont paralysés pratiquement.
Mais qui les a arrêtés? Qui les a jugés?
C'est la cour militaire qui s'est réunie. C'est la cour martiale qui les a jugés. Nyangoma compris, Mirel Kano compris et d'autres. Ils ont été accusés par la cour martiale. Ils ont été exécutés et l'affaiblissement de l'aile Monrovia est la résultante de cela. Donc,
la cour martiale, ça veut dire Michel Mitchombero qui était secrétaire d'État à la Défense.
C'est ça. Ils ont été jugés et ils ont été exécutés. Et ça, c'est une conséquence de cet affrontement entre les deux ailes. Et l'enjeu, c'est prendre le pouvoir. Le Casablanca, Monrovia veut prendre le pouvoir par l'intermédiaire dans le cadre de l'opération contre les Tutsis, dans une opération de génocide pratiquement. C'est ce qui s'est passé à Muramvya, qui allait s'étendre ailleurs. C'est cet aspect d'une gravité exceptionnelle qui se produit à la date du 18-19 juin et qui provoque un choc terrible avec comme résultat la disparition dans ces circonstances de la partie qui dirige le Sénat, l'Assemblée nationale et une partie des membres du gouvernement Bihar. Donc c'est un affaiblissement considérable, un vide de plus qui se produit dans les rangs de la direction de l'État du Burundi, dans les rangs du parti UPRONA, dans les rangs de l'Assemblée nationale. dans les rangs du Sénat, dans les rangs du gouvernement, dans les rangs de l'administration. Donc, il y a un affaiblissement, un affaissement immédiat, brutal dans ces circonstances-là. Voilà.
Est-ce que l'attaque du 18 au 19 octobre 65 a réveillé le traumatisme du 1er novembre 1959 au Rwanda?
C'est exactement le spectre du 1er novembre 1959 qui hante les têtes, les esprits, les cœurs. Parce que, et rappelons-le, la population, une bonne partie de la population Tutsi rwandaise, une bonne partie, a pris le chemin de l'exil vers le Burundi. Et, rappelons-le, dans le discours de Nyangoma du 1er juillet 1965, quelques mois avant les événements, Nyangoma se plaint presque officiellement, publiquement, de voir des réfugiés Tutsi rwandais qui sont logés, accueillis dans les maisons construites par le CAF de Gagara. Ce sont les Tutsis principalement qui vivent dans ces logements laissés par l'administration. Au moment où les Tutsis rwandais viennent au Burundi, ils sont logés et ils prennent ces logements et c'est eux qui sont là. Et Nyangoma dit dans son message, nous devons récupérer nos maisons. Il le dit clairement dans son discours-là. Et ça signifie ce que ça signifie. Donc, c'est donc une référence évidente pour Nyangoma et pour les acteurs Tutsis de l'époque de 1965, ce qui s'est passé au Rwanda est permanent devant eux, ça les hante jour et nuit. Pour éviter l'édition au Burundi des événements génocidaires du Rwanda, les Tutsis essayent de se protéger. C'est ça, et tout le monde ne cesse de le rappeler. Vous allez à la mort. Nyangoma le premier, quand il dit qu'il va changer la composition du Burundi, quand il va l'appeler le nouvel État, ils ont compris ce que ça signifie. C'est pour cela que le Mwami Mwambutsa ne l'a pas nommé premier ministre. C'est pour cela que le Mwami Mwambutsa a hésité, avec d'ailleurs le conseil appuyé de ces conseillers blancs qui ont compris le message de Nyangoma. On dit au Mwami, attention danger, Nyangoma va vous liquider, nous liquider, liquider le Burundi. Voilà.
Vous parliez des cercles qui ont réfléchi à une solution alternative. Je suppose que ce sont des politiciens, des étudiants, des syndicalistes, des membres de l'UTB, de l'UFB, les femmes. Quelles étaient les forces réelles qui étaient derrière Michel Michombero pour proclamer la République? Comment s'est préparé ce passage de la monarchie à la République?
Le passage de la monarchie à la République a été préparé pendant, disons, grosso modo, un an. C'est-à-dire, après le départ de Mwami, définitivement, le 3 novembre 1900, à 65, eh bien, je pense que les membres de ces mouvements que vous avez cités, UNEBA, JNR, UTB, UFB, ils ont commencé à réfléchir sur une autre alternative, la républicaine. Ils ont commencé à se dire, mais nous sommes en danger, le Mwami est loin, il entend ce qu'il entend et par des ondes, il n'est pas là et nous risquons de périr et ils ont commencé à réfléchir. Et bien finalement, qui sont-ils? Ce sont les membres de tous ces mouvements qui maintenant ont pris le relais pratiquement du Parti Uprona. Le Parti Uprona a été affaibli par la division en deux. Mirele Kano, Bamina, et derrière Mirele Kano, il y a des Tutsis, il y a des Hutus. Derrière Bamina, il y a des Tutsis, il y a des Hutus. Au départ. Et on s'achemine vers une période inconnue. Le Mwami absent, que faire? Eh bien, on prépare, on réfléchit à la solution de rechange, à l'autre alternative, la République. Mais une République qui ne débouche pas sur un génocide, encore. Une République dans la paix, un coup d'État contre la monarchie, éviter à tout prix de verser le sang quand la République est proclamée. Et ça se prépare pendant pratiquement un an. Par les dirigeants des partis, des mouvements intégrés au Parti Uprona depuis novembre 1965.
Il y avait un état-major, il y avait un groupe,
il y avait un groupe composé par les principaux dirigeants de tous ces mouvements et une bonne partie, vraiment le mouvement solide, le noyau de la réflexion, de ce mouvement de réflexion. Sur les préparatifs pratiquement de la République, il y avait ce noyau qui était dirigé par les principaux leaders de l'UNEBA, de la JNR, de l'UTB, donc le syndicat. Les femmes un peu moins dans la discrétion habituelle, mais en tout cas, UNEBA, UTB, JNR, c'est un des principaux supports de ce mouvement républicain. Du côté parti Uprona et Casablanca, il y en avait assez bien qui étaient dans ce groupe-là. Mais véritablement, le fer de lance de ce mouvement républicain, ce sont les jeunes de l'UNEBA, JNR, UTB. C'est eux qui...
Je suppose que vous étiez parmi les fers de lance.
Mon Dieu, je n'étais pas loin.
Non, mais parce que vous m'avez dit que vous avez eu une activité extrêmement intense au sein de l'UNEBA.
C'est moi qui ai été honoré par mes compagnons de l'université Lovanium d'être choisi. Ils m'ont confié la direction de l'UNEBA, la présidence de l'UNEBA en 1959, 60, 61. C'est moi qui ai dirigé l'UNEBA naissante à Lovanium. C'est, nous l'avons transporté sur nos épaules jusqu'en Belgique quand nous avons fui le Congo en 60, 61. C'était toujours nous qui animions l'UNEBA, cette fois-ci Belgique, France, disons l'UNEBA Europe. Jusqu'en 1961, j'ai dirigé ce mouvement des jeunes, dynamique, patriotique, unitariste, indépendantiste. C'est moi qui l'ai dirigé. Et alors, j'ai été honoré par mes compagnons d'université. Ils m'ont fait confiance. J'ai agi avec eux, pour eux. Nous avons agi ensemble. Et quand je débarque, quand je reviens au Burundi, je deviens secrétaire d'État à la Défense et tout ce qui a suivi après. Et au moment des préparatifs
de la République,
je suis dans ce courant des Républicains. Je suis dans ce courant. Nous sommes en train de préparer une réflexion qui intègre Micombero. Pas seulement Shimura. Shimura qui est devenu chef d'état-major général de l'armée au lendemain du coup de force de octobre 65. Donc, le colonel Verwaayen, qui était chef d'état-major général de mon temps et qui a été de 63 à 65 toujours chef d'état-major général de l'armée, eh bien, Shimura le remplace sur nomination de Micombero. Micombero se doute qu'il va y avoir quelque chose. Et il remplace le commandant en chef qui est belge, il le remplace par Shimura. C'est un changement significatif. Donc, et ce sont, alors, au mois de juillet 1966, quand Allais V nomme Micombero premier ministre, je suis son directeur général. C'est presque en retour de l'ascenseur. Je l'avais nommé mon directeur de cabinet à la Défense et lui me nomme directeur général au premier ministère dont il est le premier ministre.
Le retour de Charles Dizé, c'était par hasard, c'était voulu, c'était préparé?
Le retour de Charles Dizé était voulu, préparé, mais pas exactement par la même équipe qui dirige la réflexion pour déboucher finalement sur l'abolition de la monarchie et la création de la République. Il y a certains membres proches d'Ndizeye, presque intimes d'Ndizeye, qui ont agi assez solidement, assez fort auprès de lui, qui l'ont convaincu de revenir, mais probablement qu'une partie des gens qui l'ont convaincu de revenir et de remplacer son père.
C'était des Baganois sans doute influents auprès de la cour.
Non, pas nécessairement. Mais il n'était pas jusque-là, il n'était pas à son niveau, mais quand même, il n'était pas loin du groupe Monrovia. Vous voyez, le Burundi, c'est un bouillonnement, un enchevêtrement d'intérêts, de périodes, de tendances. Et les gens qui l'ont convaincu à revenir, à destituer son père, ce qui n'avait jamais été vu dans le monde du Burundi, il n'y a pas de cas au Burundi, jusque-là, jusqu'au 9 juillet 1965, il n'y a pas de cas connu au Burundi où le fils a destitué le père vivant, régnant. C'est un cas unique.
Ça faisait bien votre affaire, finalement, vous, les Républicains.
Oui, mais en même temps, c'était un danger. Ça s'est fait comme ça. Oui, c'était un peu poussé dans les voiles du mouvement républicain. Oui, c'était presque toléré par ce mouvement, par les gens du mouvement, mais c'était aussi un danger d'indiscrétion. N'empêche qu'on a cheminé dans ce contexte-là en essayant d'attirer le fils pour qu'il destitue d'abord le père. Et ceux qui ont préparé le coup du 28 novembre 1966, ils ne voulaient pas passer directement de Mwambutsa à autre chose. Non, ils voulaient, par prudence, passer par un pont temporaire, momentané.
Une période transitoire,
courte, mais pas directe, parce qu'on redoutait la réaction de la population, parce qu'on redoutait que la population, un jour après, pam, des gens mal réveillés ont aboli la monarchie au Burundi, après des millénaires de monarchie. On voulait éviter le choc. Pour éviter le choc, on met d'abord le fils pour un temps limite. Mais on attend l'occasion propice pour destituer le fils définitivement et on crée la République. Et c'est ce qui s'est passé. We'll be right back.
Abarundi kuva kare narindi bari bamwe kimakuru kurimbi amahoro ni nyama yikindi wabishaka yabibaza mu rundi niyayibula kuko yacayiki makuru imbi aharurukundo muhorura mwa urusha togwimbaraga sarukifuka batanu gorora amaboko duhoberane icyo dupfa na bujya kiruti cyo dupfa shira kugomba kwashire kugomba kwe dusenyere ku mugozi umwe inamisumbi ngimbabe Katimbi kotimbi kitimbi mukarimbi zigatama gishubi shunga nimishamo kubita nukuni visaka inda saba na mama soko kuriangabi ya gasimba gasimbo gasumbu biguru kibigende rasi no mumazi na kanagara na kakiriza yu minda kashira kurutoro kumuzinga wabi wanyi bari ba mwene kigo yenda bari kanda meza matuba kwabi ya mbaga biru wabi ya makashubwa nukubega mahoro
Pendant la période où Ndale V est roi, le dernier roi du Burundi, Michel Micombero est premier ministre et Michel Micombero représente le Burundi dans un sommet de l'Union africaine. Que s'est-il passé pendant l'absence de Michel Micombero?
Eh bien, juste le sommet de l'OUA qui s'est tenu à Addis Abeba. Le premier ministre, Michel Micombero, remplace le Mwami Ntare V et je l'accompagne à Addis Abeba. On est au sommet, chef d'État. Et en bonjour, on reçoit un télégramme de Bujumbura du service de sécurité qui dit à peu près ceci en Kirundi. Écoutez bien, en Kirundi. Waundi. Yagiye hahandi kuvuga bya bindi.
Une clarté absolue.
Fermer la citation. Eh bien, panique dans la délégation. À commencer par le chef de la délégation qui est Micombero. Panique. Immédiatement, on boucle les valises, on revient par le premier avion, Addis, Nairobi. On essaye d'atteindre Bujumbura à l'époque, comme vous le savez, il n'y a pas de communication avion Nairobi, Bujumbura ou passant par. Non, il n'y a pas, pratiquement pas, il n'y a pas de communication. Pas seulement par avion, mais aussi par téléphone. Donc, dardard, on boucle les valises, on quitte Addis Abeba, Nairobi, Kampala, on cherche un avion sur Bujumbura. On arrive, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Ndale V s'est présenté à la radio nationale. Radio nationale qui est bien gardée par les hommes de Chibura, par les hommes de Chibura, vous avez compris, les hommes de Chibura, pas les hommes de Verwaye, les hommes de Chibura, se présentent, dit, moi, je viens faire une déclaration. Celui qui garde la radio, on lui a donné les instructions de ne, à aucun prix, de ne pas céder à la radio, introduire le roi pour faire une déclaration. C'est pour cela que le message qui vient, qui nous arrive de Bujumbura à Addis, dit « Waundi ya yehahani kuvuga bya bindi ». Nous avons vite compris donc que c'était Ntare qui est allé à la radio directe pour annoncer la chute, la décision de Micombero. Et c'était qui était à la radio? Je ne sais plus. Je ne sais plus qui était à la radio. Je pense que c'est celui qui est à la sécurité. C'est peut-être Charles Semaruna.
D'autres personnes disaient que c'est plutôt Joseph Rgouri qui aurait barré le passage à Ndale V.
Oui, c'est possible du côté armé. C'est possible. Eh bien, donc voilà comment ça s'est passé. C'est comme ça. Et à partir de là, évidemment, c'est la bagarre.
Accélération de l'histoire.
Accélération de l'histoire jusqu'au 28 novembre 1966. Et regardez bien, après le sommet d'Addis, le secrétaire général de l'OUA, qui se trouve être Diallo-Kelly, guinéen, quitte, après le sommet, il quitte Addis, Nairobi, et il arrive à Bujumbura, sur le chemin des festivités entourant le premier anniversaire de la prise de pouvoir de Mobutu. Diallo-Kelly est sur la route qui le mène à ces festivités, il est invité évidemment, et il passe par Bujumbura. Diallo-Kelly est mais vraiment reçu par la GNR, par les mouvements intégrés comme un roi dans la case de la GNR qui est en Ngagara, une case magnifique, mais vraiment une case comme un palais royal de l'époque.
Savez-vous que j'étais dedans, dans ces jeunes qui ont accueilli?
Eh bien, voilà!
J'ai vu Diallo-Kelly, Ndale V, Micombero, ensemble, et je crois que c'est vraiment un événement historique, effectivement.
Absolument. Alors, évidemment, le Diallo-Terry a été mis au courant des préparatifs. Il est parti, il a précédé la délégation, mais il est pratiquement parti avec la délégation burundaise qui allait participer, allait représenter, qui est parti avec les cinq, probablement qu'ils sont partis dans le même avion. Ils sont partis et le Diallo était au courant des préparatifs. Ils sont partis dans les festivités du 24 novembre, premier anniversaire de Mobutu. Ils sont partis avec Ndale. Et le 29, Ndale devait revenir. Le 28, c'est un coup d'État républicain. Le 29, Ndale devait revenir. C'est pour éviter de verser le sang, le risque de verser le sang, qu'il a fallu absolument précéder de 24 heures le retour de mon ami Ndale 5. Et ça, la République a été proclamée le 28, parce que le 29, si on tardait, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Mitchombero a été encouragé, a été poussé au sommet de l'État. Dans, vous voyez, il y avait une maison. Quand vous prenez le boulevard, comme vous étiez là, vous le savez aussi. Quand vous prenez le boulevard, l'ancienne chaussée Rwagasore, il y avait une maison un peu avant la jonction avenue d'Obururi et chaussée Rwagasore. Une maison un peu avant d'arriver. Elle appartenait, enfin, elle n'appartenait pas. Elle a été logée. Le directeur de la radio, tiens, je le trouve, c'est Raymond Minani. Raymond Minani, qui est directeur de la radio à l'époque, à ce moment-là. Et c'est dans sa maison, je crois, que la proclamation de la République a été préparée, a été enregistrée trois fois. La première fois, ça a raté.
Pourquoi? Mitchombero était paniqué ou bien?
Il était. Quelle panique? Une panique grave. Grave. Devant cet événement plus grave encore, immense, terrible. Il a paniqué à tel point que le premier enregistrement n'était absolument pas audible. Alors, on a dit reposez-vous et puis on va reprendre. Quelques minutes, quelques temps après, on a repris le deuxième enregistrement. Même résultat, négatif. Alors, on s'est dit, mon Dieu, mais nous, on va se faire prendre comme des rats. Alors, c'est le troisième enregistrement qui a plus ou moins réussi, qui a été envoyé à la radio ce soir du 28. Ça a failli rater parce que l'auteur principal, Mitchombero, était dans une panique incroyable. Mais ça s'est fait et ce jour-là, le ciel a été totalement tombé sur le Burundi. Une peur terrible, un événement jamais vu, une histoire terrible. Voilà la fin de la monarchie, la proclamation de la République, mais dans la paix.
Avant la proclamation de la République, le jour même où Ndale 5 va à Kinshasa, il semble qu'il signe un décret royal qui institue le prenant comme parti unique. Pourquoi?
Eh bien, cela, c'était justement une inspiration des conspirateurs qui voulaient prendre la précaution qu'il n'y aurait pas un parti concurrent officiellement contre le jeune pouvoir via un parti ou une aile de parti opposé. C'est ça. Ça a été institué par Ndale 5 comme parti unique. C'est juste. Mais alors, Ndale part, il est là, il est destitué, Mobutu et son hôte, celui qui l'a reçu, invité, reçu, avec la délégation burundaise, et la délégation est dirigée par Ndale 5, avec un ministre, je crois qu'il s'appelle Niyongabo Prime, qui est au courant de tout, et la République se proclame quand Ndale est chez Mobutu, son hôte. Mobutu a pris cela comme un défi, une insulte à nul autre pareil, il s'est mis dans une colère terrible contre Mitchombero, contre ses collaborateurs, contre la délégation burundaise qui accompagne Ndale. Bomboko est ministre des Affaires étrangères. Il est encore plus furieux que son chef. Et voilà, la République est proclamée. Il faut l'annoncer à Mobutu, diable de diable. Quelle difficulté. Il faut l'annoncer à Nyerere. Il faut des soutiens. On demande le soutien de Nyerere. Il est d'accord. Mobutu, il ne veut même pas recevoir le message. Il te demande de soutien. Il est furieux à un niveau incroyable. Ndale 5 est forcé à l'exil, mais les conspirateurs, les auteurs de l'acte de rébellion tenaient à ce que la République soit proclamée sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Et ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Il y a eu après emprisonnement des gens de Luprona, Casablanca, qui étaient de l'entourage immédiat du Mouami, Ndale 5, qui ont été malmenés. Mais ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été torturés, à ma connaissance. Mais la République a été proclamée avec le consentement jugement selon lequel la destitution d'un arrêt ne s'accompagnerait pas du risque de verser au sang, encore moins du Mouami, du nouveau Mouami, d'aucun membre de la famille, non et non. Ça s'est passé comme ça. Voilà la république qui est proclamée dans des conditions pénibles, pénibles pour tous, pénibles pour la population qui ne comprend pas, pénibles pour ceux qui l'ont préparé, qui étaient mal préparés pour ça, pour assumer un pouvoir aussi lourd, aussi difficile, dans des circonstances aussi délicates, nationales, régionales, internationales. Ndare V part en exil et voilà l'histoire de la République du Burundi. Voilà l'histoire de la fin de la monarchie du Burundi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous cherchons les équilibres requis pour reconstruire un État dirigé par des Burundais, pour les Burundais, par les Burundais, avec les Burundais.
Précisément, la succession des périodes de violence extrême marquées par le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre en 65, en 72, en 88, en 93, et puis jusqu'à nos jours, depuis 2015. Est-ce que tous ces événements dramatiques, épouvantables, vous permettent d'affirmer que l'État burundais ne s'est toujours pas relevé du processus de délitement, un délitement continu, provoqué par la période coloniale et dont l'onde de choc la plus violente était évidemment l'assassinat de Louis Rwagasore.
Je pense réellement que l'État du Burundi cherche toujours, jusqu'à la date où nous sommes en train de parler, nous avons tenté une occasion unique de nous réunir tous, partis politiques, j'entends, tous, petits, grands, moyens, tous, à Arusha, l'accord pour la paix et la réconciliation a été signé à Arusha le 28 août 2000. Eh bien, cet accord d'Arusha était un espoir, était une solution, la meilleure. Pourquoi? Parce que cet accord rassemble tous les acteurs. C'est formidable. Les autres, dans d'autres pays africains, presque à la même époque, cherchent eux aussi à sortir de l'instabilité, du délitement de l'État, depuis leur indépendance respective jusqu'à pratiquement en 2000, presque en même temps que nous. Mais eux organisent des conférences nationales. Des conférences nationales. Nous, on n'a pas fait une conférence nationale. On a fait une réunion en bonne et due forme avec l'assistance de la communauté internationale. Nous sommes parvenus à un accord. C'est pas seulement une conférence nationale, c'est l'équivalent, mais typiquement burundais. Nous nous sommes souvenus que nous étions un, qu'on restait un, qu'on devait rester un jusqu'à l'éternité. Mais non. Le gouvernement CNDD-FDD, il est venu, il a dit, l'accord d'Arusha ne me convient pas. Précisément pour ça. Parce que c'est un accord qui tente de mettre fin au chaos, au délitement de l'État, au délitement des relations entre les membres de l'État-nation du Burundi, tous réunis comme Burundais. Et c'est cette contrainte qui contraint le dirigeant à diriger pour l'intérêt des Burundais, pas des Hutus, pas des Tutsis, pas des Gagnants, pas des étrangers, pour l'intérêt des Burundais, des Burundi. Ça gêne. Et le CNDD-FDD l'a montré. Ça gêne, CNDD-FDD. CNDD a été amené à casser l'accord d'Arusha, à casser la constitution qui en est issue formellement, alors que le peuple a dit non, ne cassez pas cet accord. Non, ne cassez pas la constitution qui en est issue. L'Assemblée nationale burundaise, dirigée par David Hanyuma, a dit niet. Nous n'acceptons pas le troisième mandat de Nkurunziza. Il est illégal, illégitime, anticonstitutionnel. On ne veut pas de cette constitution. On ne veut pas que Nkurunziza s'accorde lui-même un troisième mandat de 5 ans. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On passe outre, on force. L'Assemblée nationale a dit non au nom du peuple. On destitue. On passe outre.
Aborder la dernière question de ce magazine, l'accord d'Arusha prévoyait un tribunal pénal international pour le Burundi. Ça a été rejeté par le CNDD-FDD. Mais de votre point de vue, et c'est la dernière question, de votre point de vue, pourquoi est-ce que la justice n'a-t-elle jamais été utilisée comme un outil pour lutter contre l'impunité des crimes, mais surtout pour arrêter le délitement de l'État burundais?
La justice, c'est-à-dire la justice, qui est tenu dont l'arbitre n'est pas Tutsi, n'est pas Hutu, n'est pas toi, mais est Burundais, détenteur du bâton de
justice d'Aïe Burundi doit être Burundi, doit être entièrement Burundi.
Et il juge, il arbitre, il témoigne au nom de la vérité. Il est Burundi pour le Burundi, avec le Burundi, selon la loi édictée par le peuple burundais. Le CNDD ne peut pas entrer dans ce schéma. Ne peut pas, c'est pas dans son intérêt. Il dit, le CNDD dit, moi je veux tout de suite. Et tout seul.
Et pour toujours.
Pour tout, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, jusqu'à son retour. Il ne reviendra pas, paraît-il, parce que il peut pas prendre ses risques. Un pouvoir
absolu.
Pour toujours. Pouvoir politique qui donne accès au pouvoir financier, à la voix. Il veut le pouvoir et la voix en même temps, les deux, absolument. Et c'est ce qu'ils font tous les jours. Quiconque s'oppose à ça, au pouvoir, à la voix, du mal acquis. Le pouvoir est mal acquis, la voix est mal acquis, les deux sont mal acquis, celle des deux en veut toujours plus, mal acquis.
Merci beaucoup, monsieur.
Voilà
merci
donc.
Merci beaucoup, monsieur Nada et Béroni Chayenzi. Merci infiniment pour cet éclairage, cette grande leçon d'histoire que vous avez généreusement donnée au peuple burundais et surtout à la jeunesse burundaise, espérant que cette jeunesse y trouvera l'énergie, la force pour rebâtir ce que vous aviez commencé comme trame d'une histoire apaisée et une histoire qui s'inscrit dans une souveraineté nationale apaisée et où tous les citoyens, tous les Bénéburundi sont effectivement bénéficiaires des attributs d'un État, un État stable, un État paisible, un État en voie de développement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ah, je vous remercie beaucoup à Tamara pour ce travail magnifique, ce travail de tout temps, comme vous savez, en créer et en produire. Merci pour votre généreuse collaboration. Merci pour tout ce que vous avez fait, continuez à faire pour préparer un meilleur avenir pour le Burundi. Parce qu'il le mérite, ce pays. C'est un pays magnifique, exceptionnel. Et le 1er juillet de cette année, il aura sa souveraineté acquise et nous allons fêter, j'espère, ses 60 ans de souveraineté comme un événement national. National. Tous les Burundis, Bénéburundi, tous vont fêter cette fête qui leur convient, qui devrait être une valeur partagée, une émotion partagée, une histoire partagée, à parties égales, entre les fils d'une même nation, une seule nation burundaise, pas mixte, une seule nation burundaise, que vive le Burundi, nation, État, notre maison commune. Merci à Tanaz pour ce que vous avez fait et continuez à faire.
Merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.
Bikabiro.
À la présentation était Athanase Karayenga, montage du son et générique Mahoro Luc Albert, musique Teguiteka Burundi de Mabano Revival, production Fondation Bene Burundi.